Radio Kapi.
Il est 12h à Kinshasa. À la une de ce 12h, la précarité de vie de la population congolaise préoccupe le président du Sénat qui invite le gouvernement à classer parmi ses priorités l'amélioration du social des Congolais. Modeste Bahati Lukwebo l'a dit hier à la clôture de la session parlementaire de mars. Le bilan de la dernière attaque des présumés rebelles à Dief dans la nuit de dimanche à lundi à Monsobé au sud d'Irumu est revu à la hausse. Selon des sources locales, 14 civils et 2 militaires ont été tués par l'ennemi et 17 maisons incendiées. Professeur Gilbert Chibangu, initiateur de la résidence médicalisée Resmed, est notre invité. Il estime que l'État congolais a abandonné les personnes de troisième âge, particulièrement en ce qui concerne leur prise en charge médicale. Bienvenue à tous à l'écoute de ce journal. Le président du Sénat se dit vivement préoccupé par la précarité de vie de la population et invite le gouvernement à classer parmi ses priorités l'amélioration du social des Congolais. Dans son discours hier lundi à la clôture de la session parlementaire de mars, Modeste Bahati Lukwebo justifie l'amplification de la misère congolaise par l'insécurité à l'Est, l'éruption volcanique de Goma, mais aussi la pandémie au coronavirus. Au chapitre du travail parlementaire, Bahati se félicite du vote de plusieurs lois, dont celle réformant la CENI. Il plaide pour l'organisation des élections générales, en commençant par les élections locales. Modeste Bahati Lukwebo, au micro de Michel Kifindangoy.
S'agissant des préparatifs des élections qui pointent à l'horizon 2023, notre souhait est que le moment venu, le gouvernement dégage des moyens conséquents pour leur effectivité et pour l'organisation préalable du recensement tant attendu. La CENI, pour sa part, devra nous présenter un calendrier où la priorité sera accordée à l'organisation des élections locales pour rendre effective la décentralisation, socle du développement dans les entités locales. Il ne faut pas que les Congolais se pose toujours la question de savoir pourquoi les processus électoraux n'ont pas abouti à l'organisation des élections locales pourtant prévues dans le calendrier de la CENI. Il faut que nous revenions à la légalité en cette matière.
Direction Nord Kivu, le gouverneur de province vient de renforcer les mesures de lutte contre la troisième vague de la Covid-19. Dans un arrêté provincial du 28 juin 2021, le lieutenant-général Ndima Consta justifie ce renforcement des mesures par la montée des cas de contamination locale et le risque toujours élevé des cas importés par rapport au trafic intense entre le Nord Kivu et les villes affectées par la pandémie. Sifa Maguru.
Certaines dispositions de cet arrêté se retrouvent dans les mesures prises au niveau national par le chef de l'État le 15 juin dernier, entre autres le couvre-feu, la fermeture des discothèques et le respect des gestes barrières. Cependant, le gouverneur du Nord Kivu renforce à nouveau les mesures dans les domaines des transports locaux, interprovincial et international, dans les églises, les hôpitaux et les commerces. Un extrait de ces mesures lu par le porte-parole du gouverneur, le général Sylvain King.
Le maintien et le renforcement du couvre-feu sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu de 21h à 5h du matin. Le port correct et obligatoire du masque pour les transports en commun et véhicules privés embarquaient les nombres suivants. Grand bus de 32 places, 25 passagers. Petit bus IAS de 16 places, 14 passagers. Taxi-voiture. 3 passagers.
Les cadres de base et les services de sécurité sont appelés à faire respecter ces mesures susceptibles de modifications selon l'évolution de la situation épidémiologique, précise cet arrêté. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, le chef de secteur de BIA, Jules Swedi Mindo, poursuit son opération de distribution des kits médicaux aux chefs des groupements et centres de santé de référence. Les responsables des centres de santé Moulédé et Capella dans le groupement Keigo ont bénéficié du chef de secteur des kits médicaux, des tensiomètres et glucomètres électroniques pour une bonne prise en charge des malades. Écoutons les impressions des infirmiers titulaires, propos recueillis par Florence Kizalunga.
Je suis très content de recevoir les deux appareils médicaux. Donc, il y a un glycomètre électronique et un tensiomètre électronique. Même la zone de santé n'en possède pas. Alors, nous sommes très contents de recevoir de tels matériels sophistiqués. Ces matériels vont servir à notre structure de bien détecter certaines pathologies, par exemple le diabète, dont on ignorait fortement puisque nous n'avions pas cet appareil. La tension artérielle aussi, savoir qui sont les hypertendus et qui ne les sont pas rapidement. Le grand mot que j'ai, c'est remercier grandement nous sommes sa communauté. Nous aussi, nous n'allons plus l'oublier.
En tout cas, nous remercions grandement notre bienfaiteur, le chef de secteur de BEA, Swedimindo Anastair. Vraiment, il nous a aidé avec le tensiomètre, gomètre, avec la tension artérielle. On ne savait pas comment prendre en charge, surtout le malade de troisième âge. Avec cet appareil, nous prenons vraiment en charge ce malade d'une façon équitable. En tout cas, nous remercions le chef de secteur pour cet acte bien louable.
Je le disais en titre, à Nitouri, le bilan de la dernière attaque des présumés rebelles à Dief dans la nuit de dimanche à lundi à Manzobé au sud d'Irumou est revu à la hausse. Selon des sources locales, 14 civils et 2 militaires ont été tués par l'ennemi et 17 maisons incendiées. Cette attaque a entraîné le déplacement de la population dans 3 villages proches de la zone des combats. Isaac Rimoyope.
Des rebelles ADF ont surgi la nuit d'avant-hier au village des Zungoulouk en chefferie de Walesse Vonkutu au sud du territoire d'Irumou. Alertés par la population, les FARDC ont traqué l'ennemi qui ont contourné pour attaquer les villages des Manzobé. Les habitants ont été surpris dans leur sommeil par des tirs nourris des balles de ces rebelles ADF. Les bilans avancés par des sources concordantes et des 14 morts parmi les civils et 17 maisons incendiées. Du côté de l'armée, des soldats ont perdu la vie pendant les combats. On signale également un déplacement massif de la population des Manzobé et des localités proches au Faindimo et Ido ouvert commande à Nitouri et Oïcha dans la province voisine du Nord Kivu. Le trafic était perturbé pendant quelques heures sur la route nationale numéro 4. C'est hier soir qu'un calme précaire est revenu dans la zone et certains véhicules qui étaient bloqués ont poursuivi les voyages. Pour rappel, le groupe armé ADF a intensifié les attaques contre la population depuis plus d'un mois vers Boga et Tchabi en territoire d'Irumu et dans l'entité voisine de Mambasa avec comme conséquence plusieurs villages sont quasi déserts. Bounia, Isaac Rémoyope, Radio Okapi.
Restons à Bounia pour vous dire qu'un calme s'observe ces deux dernières semaines dans différents quartiers de la ville. Les vols à main armée sont devenus rares, tout comme les cambriolages, assassinats ou crépitements des balles. Certains habitants de la ville et la société civile de l'Itouri saluent les efforts des services de l'ordre pour cette relative amélioration de la situation sécuritaire au chef-lieu de la province, ce qui permet à la population de vaquer librement à ses occupations, même pendant les heures tardives pendant cette période de l'état de siège. Elle demande cependant à la police de pérenniser cette situation. Martial Kizabiamongo, reportage.
Bounia et ses quelques 2 millions d'habitants passent ce dernier temps des nuits paisibles, alors qu'il ne se passait pas une seule nuit sans qu'on attende des crépitements de balles ou qu'on enregistre des assassinats et des cambriolages. Selon les habitants, c'est les résultats de l'état de siège et l'intensification des patrouilles dans la ville qui ont permis d'appréhender certains bandits armés. La coordination de la société civile de l'Itouri, quant à elle, souhaite que cette accalmie soit également imposée à l'intérieur de la province, notamment dans les territoires de Djougou, Irumou et Mambasa où les groupes armés nationaux et étrangers sont très actifs et terrorisent la population. Son coordonnateur Dieudonné Lossa.
Le calme qu'on est en train d'observer à vie de Bounia, on peut l'observer peu partout, je crois que la population se sentira à l'aise.
Les commandants de la police dans la province de l'Itouri met ses succès sur les comptes de la collaboration avec la population. Le général Ngoyi Sengeloa Kio.
La gestion de la sécurité, que ce soit à Bounia ou ailleurs, c'est une affaire de tout le monde. Il faut que la population collabore avec nous.
Retenez qu'en espace de mois, selon la police, plus de 30 présumés criminels ont été arrêtés et une trentaine d'armes a fait récupérer dans la ville de Bounia et ses environs. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Cap sur Lubumbashi, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga tend la main au Bakata Katanga. C'est l'une des résolutions prises au cours du conclave pour la paix qui a fermé ses portes ce lundi à Lubumbashi et qui a réuni les représentants des plusieurs couches de la population. D'autres détails avec vous, Jean Gandou.
La grande annonce faite au cours de ce conclave était sans nul doute la main tendue de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga aux miliciens Bakata Katanga. Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza.
Nous
demandons à tous ceux qui se disent de Bakatakatanga de venir nous voir à l'Assemblée provinciale, d'ouvrir leur cœur et de nous dire quelles sont leurs revendications. Car nous ne voulons pas de problème dans notre province, nous voulons la paix et rien que la paix. Pour le président de cet organe délibérant, le Haut-Katanga aspire à la paix et à la concorde, car sans la paix, il n'y a pas de développement. Au gouvernement central, les participants ont recommandé notamment d'améliorer les conditions de vie dans les milieux ruraux pour éviter un flux migratoire incontrôlé qui fait qu'une fois arrivés dans les grandes villes, les jeunes sans emploi s'adonnent à des actes répréhensibles qui favorisent l'insécurité. Au gouvernement provincial, de faire en sorte que les acteurs politiques tiennent des discours en toute responsabilité. À l'Assemblée provinciale, de faire un lobbying au gouvernement central pour l'amélioration des conditions des hommes en uniforme. Et pour une paix durable, ils ont invité les acteurs politiques à éviter les discours à caractère tribal tendant à exacerber la haine. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Faisons suite à notre série de reportages relatifs à la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Nous nous rendons au Sud Kivu, où plusieurs témoins vivants de cette période-là se rappellent encore des querelles politiques qui ont repris de plus belle avec la Première République entre 1963 et 1965. Plusieurs expéditions ont été organisées dans la partie sud de la province, notamment dans Uvira, Fizi et Mwenga. Le point avec Fiston Goma.
Le second mouvement révolutionnaire est lancé en avril 1964. Louis Bidalira, puis Gaston Soumialo, Nicolas Olinga et Laurent Désiré Kabila prennent la tête de cette rébellion. Ils gagnent le Nord Katanga au mois de juin, le Kivu Maniema au mois de juillet et le Sankuru au mois d'août. Les rebelles du CNL section Est attaquent dans la plaine de la Ruzizi et atteignent Bukavu le 15 avril 1964. En moins d'une journée, les forces gouvernementales reprennent le contrôle de la situation, capturent 13 combattants Simba et les exécutent au camp de police de Bagira. Deux mois plus tard, les forces de l'ANC, commandées par le général Mobutu, reprennent à partir de Kamanyola la route reliant Uvira à Bukavu. Rubambo Mugangan et Jean-Baptiste a 24 à l'époque.
Nous avons passé dans la route Ngomo. Nous sommes arrivés à Kamanyola vers 19h ou 20h. Le chef de ce blanc-là a dit qu'il faut dormir. Nous sommes arrivés à Bugera, Lubungi, à Sangue. Il n'y avait personne.
Survient ensuite la conquête du Kivu Maniema par les rebelles de l'ALP. Les Simba sont défaits par les Warega à Kitutu puis à Mwenga. Les dirigeants locaux du MNCL et du CEREA, Danise Kashamura, répriment dans les sangs des fonctionnaires et policiers à la même période. D'Ouvira Fiston Momayaba, la Radio Okapi.
Le retour de la dent du héros national Patrice Emery Lumumba au pays est une très bonne nouvelle car c'est l'unique partie de son corps qui était récupérée avant d'être jetée dans de l'acide sulfurique. Cependant, le pays ne pourrait pas engager des millions de dollars pour faciliter le retour de cette relique à Kinshasa. Cette affirmation est de Grégoire Katende, qui a vécu la période coloniale. Ce fils d'un ancien domestique des colons affirme que Lumumba était l'unique Congolais à l'époque qui réclamait l'indépendance économique du pays. Des dépenses faramineuses pour le déplacement de sa relique ne va pas honorer sa mémoire, ajoute-t-il. Grégoire Katende le dit au micro de Sadiki Aboubakar depuis Butembo.
La relique là, c'est tout un symbole de la vie, non pas seulement de Lumumba comme individu, mais de l'indépendance. C'est une très bonne chose, parce que Lumumba n'a pas laissé quelque chose de son corps. On a jeté son corps dans la sud sulfurique. Donc tout le corps de Lumumba a été calciné. On a récupéré seulement cette dent-là par un mercenaire. Lumumba, c'est quelqu'un qui a lutté pour l'indépendance économique du Congo. Est-ce que Lumumba vous a dit que pour déplacer une dent de la Belgique jusqu'à Kinshasa, il faut dépenser des millions pour transporter une dent? La dent arrive, on fait la cérémonie. C'est une symbolique. Et s'il revenait et qu'il trouvait qu'on a fait des dépenses grandioses pour sa dent, je crois que vous ne serez pas tranquille avec lui.
Actualité internationale.
Les forces loyales en Éthiopie aux anciennes autorités dissidentes du Tigré sont entrées lundi dernier dans Mekele, la capitale de cette région du nord de l'Éthiopie, où le gouvernement a ordonné un cessez-le-feu après presque 8 mois de combats, marquant un tournant dans ce conflit. Le gouvernement fédéral a décrété un cessez-le-feu unilatéral afin notamment de permettre le bon déroulement des cultures par la population et la distribution d'aide humanitaire, selon un communiqué relayé par les médias d'État en début de soirée. Le gouvernement russe a fait état mardi 29 juin de 652 morts dus au Covid-19 en 24 heures, le bilan quotidien le plus lourd depuis le début de la pandémie et causé par l'essor du variant Delta. La deuxième ville de Russie, Saint-Pétersbourg, qui accueille vendredi le quart de finale de l'Euro de foot, a recensé 119 morts, là aussi un record, tandis que Moscou, épicentre de l'épidémie, en a comptabilisé 121. Au total, la Russie déplore 134 545 morts, ce qui en fait le pays européen le plus endeuillé.
L'invité.
Notre invité est le professeur Gilbert Tshibangu, initiateur de la RESMED, résidence médicalisée, meilleur grand-papa Étienne Tshisekedi, une structure qui s'occupe de la prise en charge sanitaire des personnes de troisième âge. 61 ans d'indépendance après, il estime que l'État congolais a abandonné les personnes de troisième âge, particulièrement en ce qui concerne leur prise en charge médicale. On écoute le professeur Gilbert Tshibangu, interrogé par Alain Irung.
Professeur Gilbert Tshibangu, bonjour.
Bonjour et bonjour aux auditeurs.
Quel bilan dressez-vous 61 ans après de la situation sanitaire des personnes de troisième âge en RDC?
Merci beaucoup pour la question. En commençant ce projet de personnes de troisième âge, nous avons découvert beaucoup de défis à relever. Nous avons essayé et aujourd'hui, on peut vous dire que 61 ans après, on constate que ces personnes ont été abandonnées ou sont encore abandonnées. Et il faut travailler dans le sens de leur accompagnement digne. C'est ce que nous avons fait chez RESMED+. Alors, 61 ans après l'indépendance, le plus important, c'est ici l'occasion pour nous de dire que nous apportons une résidence médicalisée au sens noble du terme. Il y a l'hébergement, il y a la restauration et la surveillance médicale. Donc, toute personne âgée qui vient chez nous est prise en charge correctement parce que nous avons des médecins professionnels, des infirmiers et laborantins qui, au quotidien, font le suivi médical de ces personnes. Ce qui a manqué depuis l'indépendance.
On se souvient que dans ce pays, dans les années 60, 70, voire même 80, il y a des étrangers qui venaient se faire soigner ici. Et donc, on peut dire, comme vous le confirmez, que ces personnes ont été abandonnées et par l'État et par leur famille.
Exactement. Il y a même des familles qui se permettent de jeter des parents. Si vous courez ce que vous appelez les hospices ici, vous allez trouver des parents qui ne savent même plus où se trouvent les enfants. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Nous avons innové dans le sens que ces parents sont couverts par des garants. C'est des enfants qui viennent chez nous et qui signent des contrats. Nous en exigeons 3 qui signent des contrats. Ça dit, si un est défaillant, les 2 autres ne peuvent pas être défaillants, je vais dire. Et nous faisons signer ce contrat. En cas de problème, nous recourons à ces 3 garants. Ce n'est pas le cas avec les hospices qui existent. Donc, nous avons amélioré. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut être fier de dire, voici un modèle.
Avec RESMED, vous avez organisé plusieurs consultations gratuites. Que faut-il, selon vous, pour qu'aujourd'hui, la RDC accède à la couverture sanitaire universelle pour les personnes de troisième âge?
Nous avons organisé 3 mois de gratuité. C'était dans 39 jours, où les personnes venaient pour des imageries échographiques. Et le 30 juin, nous présentons officiellement notre rapport. Et ce rapport indique ceci, pour ne pas trop entrer en détail, que nous avons reçu plus ou moins 656 patients. Et le coût de cet investissement est de 31 752 dollars, ce qui représente 0,04% du montant alloué au ministère de la Santé par le budget de l'État. Le montant alloué est de 726 741 510 000 dollars. Ça, c'est le montant alloué. Ce que nous avons investi comme coût représente 0,04%. Donc, ne pas aller vers la couverture sanitaire universelle, c'est un péché. Nous pouvons commencer tout de suite. Et c'est là que, moi, je dis, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a eu raison de vouloir offrir à son peuple la couverture sanitaire universelle. Parce que là, la RESMED vient de donner des chiffres sur base des réalisations. Ce n'est pas que nous avons inventé des choses. Nous donnons ici des chiffres vrais.
Vous parlez de plus de 30 000 dollars investis. Où avez-vous trouvé cet argent? Puisque pendant plus de 60 ans, l'État congolais à abandonner, avez-vous dit, les personnes de troisième âge en ce qui concerne leur santé?
Beaucoup de gens se demandent comment on a eu l'argent ou comment on fait pour avoir l'argent. Il y a des gens de bonne volonté, il y a des gens charitables, comme Cyril Mutombo, le DG de Kibali Gold Mining, et Samuel Feni. Ces gens nous ont accompagnés, ils nous ont aidés avec des moyens. Et la structure elle-même aussi s'est prise en charge. Donc, à toutes ces personnes, nous nous disons merci. Mais je reviens sur le fait que c'est faisable.
S'il y a d'autres personnes de bonne volonté qui souhaitent vous contacter ou participer à cette bonne action pour la prise en charge sanitaire de personnes de troisième âge, quels sont vos contacts?
Le téléphone, d'abord, WhatsApp, 099-99-20-259, 082-459-1589. Ou encore nous écrire par notre email resmedplus.65ans@gmail.com ou encore nous écrire par infoletter sur notre site web www.resmedplus.com.
Professeur Gilbert Sibangu, merci d'avoir accepté notre invitation.
Heureuse fête d'indépendance à vous et surtout au chef de l'État qui va nous offrir la couverture sanitaire universelle. Parce que là, je lui amène des preuves de comment on peut faire.
Cette session de nos informations se referme. Merci à vous qui l'avez suivi. Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde, Élisée Chikota à la coordination, Pelé Kipelamondo à la supervision, je me nomme Nico Kalambay. L'information continue sur www.radiocapi.net ainsi que sur toutes les plateformes digitales. Vous pouvez également suivre Radio Capi sur Canal+, canal 572. Place à présent au Journal des Sports avec Enoch Matondo.